Chers frères et sœurs et chers amis, notre étude concerne le chemin du calvaire. Et les trois premiers sujets sont le brisement, la coupe qui déborde et le chemin de la communion. Nous commencerons par le brisement. Voyez-vous, de nombreuses personnes demandent qu'est-ce que le réveil. Le réveil, c'est simplement la vie du Seigneur Jésus-Christ répandue dans le cœur des hommes. Christ est toujours vainqueur. Au ciel retentissent continuellement des accents de louange pour sa victoire. Quelles que soient nos défaites et notre stérilité, lui n'est jamais vaincu. Sa puissance est limitée, c'est-à-dire, vous l'avez bien compris, elle n'est pas limitée, mais illimitée, et ça change tout. C'est notre puissance qui est très limitée. Ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Et tout ce que nous avons à faire, de notre côté, c'est de mettre au point nos relations avec lui, et ceci afin de démontrer sa puissance dans notre cœur, notre vie et notre service. Ainsi, sa vie victorieuse nous remplira et débordera sur les autres. Voilà le réveil dans son essence. Cependant, si nous voulons connaître ses justes rapports avec lui, il faut tout d'abord que notre volonté propre soit brisée et soumise à la sienne. Le brisement, c'est le commencement du réveil. C'est un chemin douloureux, humiliant, mais c'est le seul chemin. Non plus moi, mais Christ, selon Galates chapitre 2, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ ne saurait vivre en nous pleinement, ni se révéler par nous tant que notre moi orgueilleux, n'est pas brisé. Cela signifie simplement que ce moi dur et intraitable qui se justifie, défend ses droits et cherche sa propre gloire, se soumet enfin à la volonté de Dieu et qu'il admet ses fautes, mes fautes, abandonne sa volonté propre et ses droits et renonce à sa propre gloire, et ceci afin que Jésus-Christ le possède et soit tout en lui. En d'autres termes, donc, être brisé, c'est carrément mourir à soi-même sous tous les rapports. Si nous considérons honnêtement notre vie chrétienne, nous verrons combien ce moi occupe de place en nous. C'est si souvent lui qui s'efforce de vivre cette vie chrétienne. Le terme même de s'efforcer indique que le moi est à la base de cet effort. C'est bien souvent le moi qui veut servir Christ, et c'est toujours lui qui s'irrite, éprouve de l'envie, de la rancune, critique et s'inquiète. Et c'est encore lui qui est dur et intolérant à l'égard des autres, satisfait de lui-même ou même renfermé. Oui, vraiment, nous avons besoin d'être brisés. Dieu ne peut guère agir en nous tant que le moi occupe le poste de commandement, car tous les fruits de l'Esprit Saint qui sont énumérés dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et dont Dieu désire nous remplir sont l'opposé de l'esprit dur et insoumis qui habite en nous et ne peuvent se manifester que si ce dernier est crucifié. Donc, le brisement est à la fois l'œuvre de Dieu et ça doit aussi être la nôtre. En effet, Dieu exerce comme une pression sur nous, mais c'est à nous de l'accepter ou de la refouler. Si dans notre recherche de communion avec Dieu, nous sommes vraiment prêts à nous laisser convaincre par sa lumière, il démasquera en nous le moi qui est dur et orgueilleux, qui le fait tellement souffrir. Et nous pourrons alors soit raidir le coup, hein, et refuser de nous repentir, soit au contraire nous courber et de dire « Oui, Seigneur ». Donc le brisement quotidien, c'est simplement accepter dans l'humilité tout ce dont Dieu veut nous convaincre. Cela peut nous coûter cher si nous considérons tous les droits et intérêts égoïstes que nous devons abandonner et les confessions et les restrictions, ou plutôt les restitutions, hein, il faut le dire. Eh bien, nous pouvons donc essayer de comprendre que nous devons faire quelque chose et nous délester de certaines choses. Voyez-vous, il n'y a que la croix et rien d'autre qui puisse produire en nous ce brisement. Car Christ a accepté d'être brisé, souvenez-vous. Et tout cela pour toi et pour moi. Il n'y a donc plus de raison pour que nous ne le soyons pas à notre tour. Jésus-Christ est celui qui, existant en forme de Dieu, eh bien, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé carrément lui-même, prenant la forme d'un serviteur, rendez-vous compte, serviteur de Dieu et des hommes. Et nous le voyons renonçant volontairement à ses droits et à la possession d'un foyer ou de n'importe quel bien, prêt à se laisser injurier sans même répondre, à se laisser piétiner sans se défendre, souvenez-vous. Mais par-dessus tout, nous le voyons brisé, tandis qu'il gravit humblement le calvaire pour y devenir notre bouc émissaire, emporté nos péchés en son corps sur le bois. Et maintenant, il nous invite à prendre notre place véritable et à devenir humble pour lui et avec lui. Donc tout le sermon sur la montagne avec ses préceptes de non-vengeance, d'amour pour nos ennemis et de charité désintéressée, nous enseigne que c'est là notre position véritable. Seule la vision de l'amour qui a accepté d'être brisé à notre place peut nous conduire jusque-là. Oui, disons ensemble, chers amis, viens ô Seigneur, et brise-moi, que je me courbe et meure comme toi, lorsque à Golgotha tu baissas la tête pour moi. Cependant, on ne meurt pas à soi-même une fois pour toutes. Le brisement initial est constamment suivi de nouveaux brisements, car c'est seulement ainsi que le Seigneur Jésus-Christ peut se révéler constamment à travers nous, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Tout au long de la journée, le choix se présente ou se présentera à nous de plusieurs manières. Cela signifiera le renoncement, par exemple, à nos projets, à nos plaisirs et à la libre disposition de notre temps et même de notre argent. Nous recherchons alors constamment le bien de ceux qui nous entourent, car ce que nous donnons à nos frères et sœurs est le surcritère, qui est le surcritère de ce que nous donnons à Dieu, comprenons-le bien, car chaque humiliation, chaque vexation que nous sommes appelés à endurer est un moyen dont Dieu se sert pour nous briser, et ceci afin de creuser plus profondément le canal par lequel s'écoule la vie de Jésus-Christ. De fait, la seule vie susceptible de plaire à Dieu est de remporter toujours la victoire. C'est sa vie, jamais la nôtre, quels que soient tous nos efforts. De même que notre vie centrée sur nous-mêmes est exactement à l'opposé de celle de Christ, de même, nous ne pourrons être remplis de la sienne qu'à la seule condition d'accepter que Dieu fasse constamment mourir la nôtre. C'est ici qu'intervient notre choix. Chers amis, notre deuxième sujet, c'est la coupe qui déborde. Le brisement n'est cependant que le début du réveil. Le réveil lui-même, c'est d'être rempli du Saint-Esprit au point de déborder. C'est aussi la vie victorieuse, gloire à Dieu. Et si l'on nous demandait maintenant, êtes-vous rempli du Saint-Esprit, que répondrions-nous? Le réveil, c'est de pouvoir répondre oui à cette question à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a aucun orgueil à l'affirmer, car c'est entièrement et uniquement l'œuvre de Dieu, et c'est une pure grâce. Tout ce que nous avons à faire est d'offrir à Dieu un cœur brisé. Oui, un cœur brisé, vous l'avez bien compris, pour qu'il puisse le remplir et le maintenir dans la plénitude. Murray a dit avec raison, comme l'eau recherche et remplit toujours les lieux les plus bas, ainsi Dieu nous emplit de sa gloire et de sa puissance dès l'instant où il nous trouve humbles et vides. Une image suggestive est celle de la coupe, représentant par exemple notre cœur. La coupe qui représente notre cœur que nous tendons à notre Seigneur pour qu'il la remplisse de l'eau vive. Jésus-Christ est représenté tenant une cruche d'or. Et tandis qu'il passe, il regarde notre coupe. Si elle est propre, il l'emplit jusqu'à la faire déborder. Et comme il passe toujours, elle peut toujours déborder. C'est ce que veut dire David au psaume 23. Ma coupe déborde. Le réveil, c'est donc quand toi et moi, mon cher ami, nous nous laissons remplir de cette eau vive jusqu'à déborder pour nous-mêmes, et surtout également pour les autres, et cela avec une paix constante dans le cœur. On s'imagine parfois que mourir à soi-même rend malheureux, mais au contraire, c'est le refus de mourir à soi-même qui devrait nous rendre misérables. Plus nous avançons ou avancerons dans la mort avec le Seigneur, plus nous connaîtrons sa vie de résurrection, et plus notre paix et notre joie seront une réalité. Sa vie en nous débordera sur notre prochain, et ceci avec une profonde nostalgie de voir les âmes perdues venir à Christ et l'ardent désir que nos frères et sœurs chrétiens reçoivent une pleine bénédiction. Il n'y a qu'une chose qui empêche le Seigneur Jésus-Christ de remplir notre coupe tandis qu'il passe. C'est, voyez-vous, le péché sous une de ses multiples formes. Il ne saurait remplir des coupes impures. Tout ce qui procède du moi, si infime que cela soit, est tout simplement le péché. La pitié de soi-même dans les épreuves et les difficultés, la recherche de ses intérêts propres dans les affaires, ou le service pour Dieu, le laisser-aller dans les loisirs, la sensibilité, la susceptibilité, le ressentiment, la défense de ses droits lorsque on est offensé ou accusé, l'égocentrisme, le repliement sur soi-même, les soucis également, les craintes, eh bien tout cela provient du moi, car tout cela est, bien sûr, par conséquent, le péché. Le péché est, va donc souiller notre coupe. Cependant, tous ces péchés se trouvaient dans la coupe que le Seigneur à Golgotha, le Seigneur à Gethsémané, hésita un moment de vider, mais qu'il a bu jusqu'à la lie au calvaire. Voyez-vous, si nous lui permettons de nous révéler le contenu de notre coupe, et que nous le lui abandonnons, il le purifiera dans son sang précieux qui coule encore pour le péché. Il ne s'agit pas là simplement d'une purification du péché, mais encore de la souillure et de la culpabilité qu'il entraîne, de sorte qu'il n'en reste plus trace en nous. Et tandis qu'il purifie notre coupe, il la remplit du Saint-Esprit. Et nous pouvons ainsi expérimenter chaque jour à nouveau l'efficacité de ce sang précieux. Supposons maintenant que nous ayons laissé le Seigneur Jésus-Christ purifier notre coupe et la remplir, et que tout à coup nous cédions à une impulsion, une pensée d'envie ou de colère. Qu'arrive-t-il alors? Oui, qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, je crois que notre coupe, à nouveau souillée, elle va cesser aussitôt de déborder. Ça a l'air logique. Et si nous restons vaincus, croyez-moi ou pas, il ne débordera plus jamais. Nous voulons pas risquer cela. Ah non, Pour connaître un réveil permanent, nous devons apprendre à garder notre coupe pure. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un réveil cesse et soit désormais connu sous le nom de réveil de telle ou telle époque. Si tel est le cas, cela est dû uniquement au péché et non pas à autre chose. Ces petits péchés que le diable verse dans notre coupe, ils sont grands, ils sont mauvais et ils vont nous empêcher de travailler pour le Seigneur. En revenant donc au calvaire et en expérimentant à nouveau la puissance du sang de Jésus-Christ pour nous purifier instant après instant du péché, dès que l'Esprit Saint de Christ travaille en nous, eh bien, nous apprenons le secret de la sainteté et de la plénitude d'une coupe constamment purifiée et constamment débordante. Et dès que vous avez conscience d'être effleuré par des sentiments d'envie, d'irritabilité ou de quoi que ce soit d'autre, abandonnez-les à Jésus-Christ en lui demandant de les effacer par la puissance de son sang versé. Vous verrez alors que votre réaction charnelle disparaîtra. La paix reviendra et la coupe à nouveau débordera. Plus vous rechercherez cette purification, moins vous aurez de réaction du moi. Mais la purification n'est possible que si nous avons été préalablement brisés par Dieu sur le point en question. Supposons que nous soyons irrités par le caractère d'une certaine personne. Il ne suffit pas simplement d'apporter notre irritation à la croix, mais nous devons intercéder pour cette personne pour que le Seigneur la bénisse et pour qu'il lui donne la paix intérieur. Alors, nous pourrons apporter à Jésus-Christ nos réactions d'irritation, sachant que son sang précieux purifiera ce péché. Lorsque nous avons été purifiés d'un péché, ne continuons pas à nous en lamenter, mais soyons préoccupés de nous-mêmes un peu davantage et regardons plutôt à notre Sauveur victorieux et bénissons-le de tout notre cœur de ce que cette victoire est toujours effective. Il existe dans la parole de Dieu un guide absolument sûr pour régler notre marche avec Jésus-Christ et signaler en nous l'apparition du péché. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Tout ce qui trouble en nous la paix de Dieu est tout simplement le péché. Même si cela nous paraît insignifiant, cette paix doit régner dans nos cœurs, et ceci selon une traduction plus littérale, elle est un arbitre. Vous avez bien compris, un arbitre, c'est comme dans un match de football. Si l'arbitre siffle, le jeu doit s'arrêter. Une faute a été commise, et lorsque nous perdons notre paix, c'est que l'arbitre de Dieu, l'Esprit Saint, a poussé son coup de sifflet en nous. Arrêtons-nous donc tout à fait immédiatement, on peut dire sur le champ. Et demandons à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Confessons-lui le péché qu'il va nous montrer et le sang de Jésus-Christ nous rendra la paix. Nous pourrons alors reprendre la route avec une coupe qui déborde. Si cependant Dieu ne nous rend pas sa paix, c'est tout simplement le signe que nous ne sommes pas réellement brisés. Peut-être devons-nous demander pardon à quelqu'un d'autre, aussi bien qu'à Dieu. Ou peut-être persistons-nous à croire que c'est la faute de l'autre. Ça, c'est plus simple. Mais si nous avons perdu la paix, cela suffit pour nous indiquer clairement qui est coupable. En effet, le péché d'autrui, le péché qui est par quelqu'un d'autre, ne saurait nous faire perdre notre paix. Ça, il faut absolument le comprendre, car Dieu veut nous montrer la culpabilité de notre réaction. Et c'est seulement lorsque nous aurons accepté d'être brisés sur ce point particulier que sa paix nous sera rendue. Quelle chose simple et profonde d'être sous le contrôle de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Telle manière d'agir égoïste qui ne nous troublait pas auparavant nous est désormais révélée et nous ne saurions la conserver sans que l'arbitre nous donne l'alarme. Si nous sommes prêts à nous laisser gouverner sur ou par la paix de Dieu, la mauvaise humeur, l'autoritarisme, la négligence, jusque dans leurs moindres manifestations, nous sont révélés comme des péchés. Et plusieurs fois par jour, et pour les plus petites choses, nous devrons avoir recours au sang de Jésus-Christ et nous connaîtrons, comme jamais auparavant, la voie du brisement. Oui, ça c'est important, au travers de laquelle Christ pourra se manifester dans toute de sa merveilleuse grâce. Mais pour cela, il faut être brisé. Cependant, plusieurs d'entre nous ont négligé si souvent les avertissements de l'arbitre qu'ils ne les perçoivent parfois plus du tout. Ça, c'est grave. Et les jours se suivent sans que nous trouvions ou trouvons l'occasion d'être brisés et sans que nous ressentons le besoin d'être purifiés. Cet état est généralement pire que nous le croyons. Il faut désirer ardemment retrouver la communion avec Dieu avant d'accepter de crier à lui pour qu'il nous montre où nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Et pour commencer, il nous montrera une chose, seulement une chose à la fois, mais notre obéissance et notre brisement sur ce point constitueront le premier pas vers le réveil en nous, premièrement. Certains se demandent s'il est juste d'appeler péché des choses telles que le désir de plaire ou le repliement sur soi-même ou la crainte. Appelez-les plutôt infirmité et faiblesse, car les appeler péché, c'est se placer sous un joug. chers amis, il n'est pas faux qu'une femme cherche à plaire. Pourquoi tout de suite dire que c'est diabolique? Dieu ne nous demande pas d'être sales, négligés et délabrés. Par contre, attention, tout dépend des motifs de vouloir plaire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous le montrer, nous le révéler. Chers amis, un tout petit témoignage personnel au sujet duquel j'ai profondément honte. Dû à une enfance horriblement triste à cause d'un père qui s'est marié tout de même 5 fois, ma jeunesse a été très perturbée. Certains péchés d'autrefois, dans des moments d'insomnie, essayent de revenir aujourd'hui dans le domaine de la pensée. J'ai fait la constatation suivante. Même en invoquant le sang de Christ, la victoire ne durait pas beaucoup plus qu'une demi-heure. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez et me critiquer, vous avez peut-être raison. Mais c'est seulement en me levant et en me mettant à genoux ou même parfois debout, en marchant dans l'appartement et en réfutant énergiquement les attaquants, et ensuite de me placer sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ, que la victoire pouvait avoir lieu et que la bataille était gagnée. Vous avez bien compris que les attaquants, on ne veut pas rentrer dans les détails, vous savez qui c'est. Donc, n'ayons pas honte, chers amis, de dire « Seigneur Jésus-Christ, purifie et sanctifie-moi, sanctifie et purifie mon corps, mon âme, mon esprit et même les pensées, n'oublions pas, et fortifie puissamment ma volonté chancelante et parfois paresseuse. » Et vous verrez, c'est une méthode qui est excellente. En tout cas, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Et ça a marché. Chers amis, notez maintenant la troisième et dernière partie ou sujet qui est et concerne le chemin de la communion. Voyez-vous, lorsque l'homme tomba dans le péché et se choisit lui-même plutôt que Dieu, oui, lui-même plutôt que Dieu comme centre de sa vie, eh bien le résultat fut non seulement de le séparer de la communion de Dieu, mais encore d'interrompre cette communion avec son prochain. La première révolte de l'homme contre Dieu, rapportée, je crois, au chapitre 3 de la Genèse, a été bientôt suivie de sa première révolte contre l'homme, et ce fut le meurtre d'Abel par Caïn. La chute, c'est tout simplement le fait que chacun suit sa propre voie. Et vous pouvez noter Ésaïe chapitre 53, verset 6. Si je préfère ma propre voie à celle de Dieu, il est évident que je la préfère aussi à celle de mon prochain. On n'affirme pas son indépendance vis-à-vis de Dieu sans l'affirmer du même coup vis-à-vis des hommes, des femmes. Et un monde où chacun suit sa propre voie ne peut être que rempli de tensions, de barrières, de suspicions, de malentendus et de conflits de toutes sortes. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ au calvaire n'a pas consisté seulement à rétablir la communion entre l'homme et Dieu, mais encore entre l'homme et ses semblables. L'un ne saurait aller sans l'autre. Plus les rayons d'une roue se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les unes des autres ou les uns des autres. S'il n'y a pas de communion vivante et réelle avec tel ou tel frère et sœur, c'est la preuve que cette communion n'existe pas non plus entre nous et Dieu. La première épître de Jean, sur laquelle le réveil dépend une si vive lumière. Oui, là, dans la première épître de Jean, on peut dire que le réveil répand carrément une merveilleuse lumière. Elle mesure la profondeur et la réalité de la communion de l'homme avec Dieu, à la profondeur et à la réalité de sa communion avec ses frères et sœurs. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 9, ainsi que le chapitre 3, versets 14 à 15. Et j'oublie même le chapitre 4, verset 20, toujours de l'épître 1, la première épître de Saint Jean. Donc tout ce qui constitue une barrière entre nous, si insignifiant que cela puisse paraître, en constitue du même coup une entre Dieu et nous. Et là où ces barrières ne sont pas immédiatement renversées, elles se transforment bientôt en un mur si épais que nous trouvons donc entièrement séparés de la communion avec Dieu et même avec nos frères et sœurs. Si la vie nouvelle me remplit vraiment, eh bien elle me permettra de réaliser l'unité avec Dieu en même temps qu'avec mes frères et sœurs. Alors, plus rien ne me séparera d'eux. Chers amis, quelle est la base de cette communion réelle avec Dieu et avec notre frère et sœur? Dans la première épître de Jean que nous avons déjà citée, chapitre 1, verset 7, nous donne là la réponse à cette délicate question. Si nous marchons, est-il dit, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. Je répète, si nous marchons dans la lumière, comme il, Dieu, est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie carrément de tout péché. La lumière éclaire et révèle, tandis que les ténèbres cachent. L'œuvre de la lumière consiste à nous révéler ce que nous sommes. Tout ce qui est manifesté est lumière, selon Éphésiens chapitre 5, verset 13. Mais tout ce que nous faisons ou disons, ce que nous taisons même, ce que nous cachons, et ceci dans le but de cacher ce que nous sommes en réalité, ressort évidemment pas de la lumière, mais, je pense, des ténèbres. Le premier résultat du péché en nous est toujours de nous faire cacher ce que nous sommes véritablement. Le péché induit nos premiers parents. Oui, le péché a induit nos premiers parents à se cacher derrière les arbres du jardin. Et il n'a pas même cessé jusqu'à maintenant d'avoir le même effet. Car le péché nous conduit toujours à l'irréalité, à la comédie, comme on pourrait dire, à la duplicité, à soigner les apparences, à nous excuser et à mettre la faute sur tout, sur les autres. Et cela autant par le silence qu'en disant ou faisant quoi que ce soit. C'est là ce que le passage précédent, oui, le passage tout à l'heure, appelle la marche dans les ténèbres. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 5, verset 8. Je répète, c'est là ce que le passage précédent appelle tout simplement la marche dans les ténèbres. Éphésiens 5, verset 8. Et pour certains, eh bien, le péché en question n'est autre que la recherche exagérée de soi-même, de moi-même. Quel contraste avec le verset 5 du même chapitre qui nous dit que Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est le Tout-Puissant qui révèle tout et notamment l'homme tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait paraître à être, hein, un peu comme du surréalisme, du irréel. Il n'y a point en lui de ténèbres, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a en Dieu absolument rien qui ressemble à la moindre parcelle des ténèbres ou à notre désir de dissimulation. Eh bien, la seule manière de réaliser la communion véritable avec Dieu et les hommes, c'est de vivre au grand jour, et ceci avec tous les deux. Oui, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et avec notre prochain. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien nous sommes mutuellement en communion. La marche dans les ténèbres est le contraire absolu de la marche dans les... Dans les quoi ? Dans la lumière. Je répète, la marche dans les ténèbres est forcément le contraire de la marche que nous pouvons faire, que vous pouvez faire avec moi, moi avec vous, dans la lumière merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ et de son Dieu, Dieu le Père. Le fameux Spurgeon a défini cette dernière déclaration comme suit. Il faut être prêt à connaître et à être connu. C'est pas mal ça. Il faut être prêt à connaître et à être connu. Il n'y a que le Seigneur qui représente la lumière. L'ennemi représentera toujours les ténèbres et rien d'autre. Oui, cela est vrai, qu'on le veuille ou pas. En ce qui concerne la communion avec Dieu, cela signifie que nous sommes prêts à reconnaître toute la vérité sur nous-mêmes, donc à être convaincus de nos péchés, à nous courber, à courber la tête à la moindre suggestion de notre conscience, et on a appelé, tout simplement à appeler péché, tout ce que Dieu nous signale comme tel, afin à ne rien cacher, ni excuser. Je crois que ça vaut la peine de répéter cette phrase, car elle est importante. Oui, je crois. Donc, en ce qui concerne la communion avec Dieu, Cela, chers amis, signifie que nous sommes prêts, vous et moi, à reconnaître toute la vérité sur nous-mêmes, à être convaincus de nos péchés, de mon péché, et à courber la tête à la moindre suggestion de notre, de ma conscience, et à appeler péché tout ce que Dieu va nous signaler comme tel, et ceci afin à ne rien cacher, ni rien excuser. Et une telle marche dans la lumière ne peut que nous rendre toujours plus sensibles au péché en nous, et nous le reconnaîtrons là où nous l'ignorions totalement auparavant. Ce n'est pas une bonne chose d'ignorer nos péchés. Cela pourrait nous faire reculer, et nous pourrions être tentés de nous protéger d'une pareille clarté si le verset cité ne se terminait pas par ces fameuses paroles, ces merveilleuses paroles, écoutez bien. « Et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. » Répétons cela. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché, de ton péché et de mon péché. Nous pouvons confesser et mettre sous le sang tout ce que la lumière de Dieu nous révèle comme péché. Alors ce dernier va être effacé, effacé devant Dieu et dans notre cœur, alléluia. Son sang précieux a le pouvoir formidable, merveilleux, de nous rendre plus immaculés même que la neige. Et c'est ainsi que, demeurant continuellement dans la lumière et étant continuellement purifiés par le sang précieux, nous sommes en communion avec Dieu. La communion promise ici n'est pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et voyez-vous, cela suppose que nous marchons dans la lumière avec notre frère, avec notre sœur, et nous ne saurions en aucun cas être au grand jour avec Dieu et dans les ténèbres à la fois avec notre prochain. Ça marche pas. Nous devons être donc dans la lumière, dans la paix intérieure avec Dieu et non pas dans les ténèbres avec notre prochain. Avec notre prochain, nous devons aussi, c'est ce que ça veut dire, aussi être dans la lumière, dans la paix. Nous devons donc être prêts, vous et moi, non seulement à connaître, mais à être connu des hommes comme de Dieu et à accepter qu'il nous éclaire sur nous-mêmes et à agir de même envers eux dans l'amour. Alors nous ne cacherons plus notre véritable visage à nos frères et sœurs avec lesquels nous vivons, et cela par toutes sortes d'apparences plus ou moins authentiques, pas plus que nous ne continuerons à nous excuser et à nous blanchir. Nous serons honnêtes et nous renoncerons à notre propre manière de considérer notre vie spirituelle, hein, notre vie tout court, ainsi qu'à notre orgueil, oh là là, et comment ? Et à notre bonne réputation, afin de devenir vraiment transparent avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et cela signifie également que nous ne garderons plus dans notre cœur aucun sentiment malveillant à l'égard de qui que ce soit, mais que nous en chercherons tout d'abord la délivrance auprès de Dieu, et puis le confesserons et mettrons les choses au point avec la personne en question. Nous réaliserons donc ainsi une communion toute nouvelle, une communion les uns avec les autres, et nous nous aimerons, pas moins, mais infiniment davantage. Marcher dans la lumière, c'est simplement marcher avec Jésus-Christ. Cela ne suppose par conséquent, aucun ou aucune contrainte, aucun problème. Et cela ne signifie pas non plus qu'à tout le monde, nous devions ouvrir tout notre cœur. Il y a un minimum de sagesse que nous devons demander. Ce qui compte avec tout ou avant tout, c'est notre attitude intérieure de notre cœur. Sommes-nous prêts, mon cher ami, ma chère amie, à être entièrement transparents avec nos frères et sœurs et à l'être en parole lorsque Dieu nous le montrera? C'est là la véritable marche dans la lumière. Cela sera parfois humiliant, mais combien efficace pour la réalité de notre vie spirituelle et la connaissance de nous-mêmes. Nous sommes si habitués à l'idée que Dieu nous connaît, qu'il sait toutes choses, que nous ne réagissons plus et que, pour finir, nous nous connaissons plus nous-mêmes. Mais qu'un homme, une femme, reconnaisse l'entière vérité sur lui-même, sur elle-même, sous la direction de l'Esprit Saint, et il ou elle se verra alors, lui-même, elle-même, et ses péchés, dans une lumière toute nouvelle. Il ou elle comprendra comme jamais auparavant, où le sang rédempteur de Christ doit être appliqué progressivement dans sa et dans ma vie. C'est là la raison pour laquelle l'apôtre Jacques nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Bien sûr, il faut la sagesse et pas faire n'importe quoi, parce qu'il peut y avoir des conséquences. D'après la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, le but de la marche dans la lumière est la communion mutuelle les uns envers et avec les autres. Et combien elle est réelle? Oui, combien elle est réelle, cette communion, lorsque nous marchons ainsi. De toute évidence, l'amour jaillira entre nous si chacun de nous accepte d'être connu tel qu'il est, tel qu'elle est, pécheur, repentant, aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les barrières sont tombées et les masques, surtout les masques, arrachés, Jésus-Christ peut enfin nous unir et faire que nous soyons un cœur et une âme. Nous savons très bien que si une personne a quoi que ce soit contre nous, cela sera immédiatement soumis à la lumière, soit dans le brisement et la confession, là où il y a eu des torts ou des manques d'amour, ou soit dans des remontrances pleines de charité, lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous avons besoin de reconnaître. N'oublions pas cependant que la marche dans la lumière est avant tout une marche avec Jésus-Christ, et c'est tout d'abord à lui que nous avons affaire pour être purifiés et obtenir la victoire. Et si ensuite Dieu conduit, il nous conduit il vous conduit à ouvrir votre cœur à nos frères et sœurs, eh bien, c'est alors bien plus un témoignage qu'une confession que nous leur apportons. Et nous pouvons ainsi louer ensemble Dieu. Chers amis, Jésus-Christ veut que nous commencions aujourd'hui à marcher dans la lumière, et ceci d'une manière absolument nouvelle. Joignez-vous pour cela à un autre, à une autre, à votre ami chrétien, à la personne avec laquelle vous vivez, oui, par exemple votre femme, votre mari, et laissez tomber votre masque, ça c'est important. Hein? N'oubliez pas cela, tout le reste n'amène à rien. Sans aucun doute, Dieu vous a montré un point précis sur lequel vous devez être honnête avec eux. Donc, commencez tout simplement par là. Travaillez à deux, là où le Seigneur vous a placé. Et d'autres seront alors brisés au pied de la croix et ajoutés, chers amis, comme Dieu nous le demande. Réunissez-vous dans un esprit de communion véritable pour partager vos expériences spirituelles, avec une parfaite franchise, et priez pour d'autres, et ça c'est important, priez pour d'autres, et puis allez, il faut pour cela se bouger, toujours en équipe si possible, en tout cas deux par deux, portez plus loin votre témoignage. Ainsi Dieu pourra faire de grandes choses, et ceux qu'il aura sauvés et bénis pourront à leur tour vivre et travailler en équipe comme une boule de billard qui en met d'autres en mouvement, et pour finir tout le parti, ou si vous voulez, tout le quartier. Oui, tout le quartier sera inondé de la vie nouvelle qui procède du Seigneur ressuscité. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble, mais avant, je voudrais vous donner quelques paroles d'encouragement. Oui, ça c'est important. Qu'un autre te loue, et non pas ta bouche. Un étranger, et non pas seulement tes lèvres. Ça se trouve dans les Proverbes, au chapitre 27, verset 2. Quand tu fais toi-même ton éloge, que tu recherches ta propre gloire, il ne reste plus de place pour la louange et la glorification de Dieu. Dieu ne peut être objet de louange que d'un cœur humble, un cœur vidé de toute propre gloire. Fais donc place à la louange de Dieu en rejetant de ton cœur tout désir de glorification de toi-même. Si alors quelqu'un découvre en toi quelque chose qui soit digne d'être loué, eh bien, il en glorifiera spontanément ton Père céleste. Et abstenez-vous du mal, sous toutes ses formes. C'est ce qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Oui, quand tu t'abstiens de quelque chose, tu ne romps pas seulement avec un être humain, un cercle d'amis ou une habitude pécheresse, mais tu fuis tout cela. Tu laisses tout cela derrière toi, donc tu laisses aussi derrière toi le mal sous toutes ses formes. qui ne le fuit pas, qui ne peut pas fuir, va participer au mal, même s'il n'est accompli que par autrui, et se trouve donc atteint par le même jugement. Évite donc le mal, et ceci où que tu le rencontres. Prions maintenant, tout simplement, ensemble. Seigneur, qui a été humble de cœur, ne permets pas que nous nous approchions de toi avec une orgueilleuse présomption et dans un sentiment de satisfaction de nous-mêmes, mais donne-nous une véritable humilité en nous faisant comprendre combien nous sommes coupables devant toi. Nous savons que celui qui s'élève sera abaissé, et les déclarations de la parole divine ne nous permettent pas de conserver d'illusion à cet égard. Et cependant, sans cesse, nous nous élevons devant toi, grand Dieu, devant les hommes et bien plus encore en nous-mêmes. L'humilité, compagne inséparable d'une véritable sainteté, ne se manifeste pas seulement aux yeux du monde par des actes et des paroles, mais elle agit dans les profondeurs de l'âme, tellement qu'il ne peut plus s'y trouver de vaine confiance en soi. Oui, pas d'orgueil, mais de bonnes opinions de ses propres pensées et de ses vertus, car celui qui est humble de cœur, ce qui est le plus important, et qui marche dans l'humilité, aura toujours de l'indulgence pour autrui, de la douceur, de la patience, comme son divin modèle. Et il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne brisera point le roseau froissé, il n'aspirera point aux choses relevées, il ne présumera pas de soi-même, mais il sera bon envers les autres. Il sera plein de compassion, pardonnant comme Dieu lui a aussi pardonné par Christ. Pouvons-nous reconnaître en nous ces caractères de l'humilité chrétienne? Ne sommes-nous pas forcés d'avouer au contraire que notre conduite révèle des dispositions entièrement opposées? Ô Seigneur, aie pitié de nous et donne-nous par ta grâce un sentiment de plus en plus vif de notre état de misère spirituelle et de condamnation devant toi, afin que l'humilité naisse enfin en nous, que notre amour pour Christ, notre Sauveur bien-aimé, puisse accroître encore cette humilité, sachant que nous avons été sauvés uniquement par grâce, et que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu de miséricorde, daigne exaucer notre prière et nous donner de t'offrir avec l'humilité du pauvre péager et non avec l'orgueil du pharisien de ton évangile. Un amen de bonheur, et sachons que tu nous écoutes, sachons que tu nous exauces, sachons que tu viens toujours à notre secours. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais qu'il est une réalité qu'il ne faut pas oublier, que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Soyez bénis. Et merci pour votre intérêt que vous portez à ces études. Donc, nous avons toute une série intéressante devant nous et je vous remercie de vous y intéresser. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt à nouveau, mes très chers amis.